Radio G 101.5 FM.
Tendance à me plaire.
Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Tendance à me plaire, une émission que vous retrouvez tous les 15 jours sur Radio G, sur fréquence ZIC, en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming musical. Alors pour nous trouver, rien de plus simple, tapez Tendance à me plaire, abonnez-vous et recevez automatiquement dans votre téléphone les dernières émissions. Alors on vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, et notamment via les stories, hein, où l'on poste régulièrement de petites surprises, des informations, des quiz, histoire de garder un lien au quotidien avec vous. Alors au programme de ce numéro, nous sommes chez soi, et avec le chroniqueur, on peut dire qu'on vous fait voyager direction les Ponts-de-Cé, avec peut-être un léger décalage pour retrouver notre chaleureuse Soso. Salut Soso.
Bonsoir à tous.
Vous avez entendu le petit décalage. Alors, on te retrouve pour le Soso Show, un jeu autour de l'actualité insolite. Alors, à Angers-Lac-de-Maine.
Oui, si, c'est moi. Je commence par 5 sur 5.
Voilà, on rejoint Karine qui, elle aussi, pose un jeu autour des infos infox. Avec pour thème ce soir le potager, c'est bien ça, Karine?
Exactement.
Et maintenant, direction, Avrier, où on retrouve Caroline qui nous parle du top Gigi Hadid. Salut, Caro.
Hey, salut tout le monde.
Hey. Et puis, à Angers Centre, on retrouve Olivier qui nous parle de films sur la cause afro-américaine, un sujet d'actualité très important en ce moment. Salut, Olivier.
Oui, salut tout le monde.
Salut. Et enfin, Bruno qui nous proposera un petit journal des nouvelles technologies et des tutos. Salut, Bruno.
Salut, je suis où? Moi, je suis en Mayenne, c'est ça?
Tu nous fais toujours voyager. Bon. Et avec nous ce soir, un invité un peu mystérieux, on va le dire. Hein. On ne peut pas, par exemple, voir son visage sur les réseaux. Mais ce pas Sébastien. Alors, bonjour Sébastien.
Bonjour tout le monde.
Et pour tout vous expliquer, donc Sébastien est enquêteur pour le petit futé Angevin. Et oui, c'est lui qui peut venir incognito tester votre établissement et émettre un avis ensuite dans ce guide indispensable à notre vie citadine. On vous explique tout dans le courant de l'émission, mais pour le moment, c'est l'édito de Bruno.
Tendance à me plaire.
Ah, c'est à moi. Donc ce soir, on a un petit futé avec nous. Eh bien, vous allez être en bonne compagnie. Hein, des petits futés, on en a plein l'émission. Alors, par exemple, on a Olivier. Lui, il va vous remplir votre guide pour peu que vous parliez de cinéma. Hein, il n'a même pas besoin de voir les films pour les critiquer. Hein, c'est tout bénef pour vous. Mais bon, pour le guide, c'est plus à boire et à manger. Et pour ça, on a aussi ce qu'il faut. Alors, même en n'étant pas employé comme guide gastronomique, on a une chroniqueuse qui ne peut s'empêcher de nous faire une critique complète des repas quand on va au restaurant. Et le mieux, c'est qu'elle n'a pas peur de le dire au serveur. Le moment gênant du repas où on regarde tous notre assiette. Alors là, elle se sont disées, elle sait qui c'est. Hein. Bon, alors après, non, c'est vrai qu'on est tous un peu des faux culs en fin de repas. Hein. Quand le serveur nous demande « Tout s'est bien passé ?» Alors on a envie de lui dire « Non, c'était froid, pas cuit, ça n'a pas de goût. » Mais non, on dit « Oui, très bien, merci. » Alors c'est pareil pour le coiffeur. Hein. Il demande toujours à la fin « Ça vous va ?» Et nous, bien sûr, on répond « Oui, oui, très bien. » Alors qu'il nous a complètement raté. Hein. Mais bon, il est trop tard. Alors on n'a qu'une envie, partir se cacher. Et on sourit et on paye. Mais bon, revenons à Sonia. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, je parlais de Sonia, évidemment. Hein. Pour elle, la bouffe, c'est sacré. Et pas seulement les sushis. Alors si vous êtes restaurateur et que vous la voyez débarquer, attention donc, c'est pire que le guide Michelin. Et l'addition, vous pourriez très bien vous la prendre dans la tête. Alors on rigole pas avec ça. On ne compte plus les adresses où on est grillé et on n'ose plus aller. C'est vrai, les copains. Hein,
mais c'est exactement ça. C'est une critique gastronomique, mais trop forte, mais trop dure, mon Dieu.
Donc alors, si vous cherchez une enquêtrice culinaire, c'est elle qu'il vous faut. Alors dans le genre,
ça m'intéresse.
Dans le genre, on a aussi Karine. Mais là, c'est les calories qui seront passées au crible. Imaginez la tête du cuistot quand il voit débarquer Karine avec sa petite balance pour peser les aliments et ses petits sacs pour analyse. Ça se voit tout de suite. Mais on peut aussi tester les barres.
Et pour ça, heureusement que t'es à distance.
Et pour ça, on a, pour les barres, on a Caroline. Par contre, on vous déconseille de lui écrire ses articles, de lui faire écrire ses articles les jours de ses inspections. Parce qu'en fait, elle va boire en vrai. Et pour l'avoir vécu, ça peut donner des textes étonnants. Hein, si tant est qu'elle puisse encore tenir un crayon.
Et c'est vrai,
non ? Bon, sinon, j'ai Raphaël. Alors là, vous avez la totale. Hein, il est capable de tester tout et n'importe quoi.
C'est vrai.
Il nous a dit, il y a 2 ans, avoir découvert un truc super pour faire tenir ses vêtements dans une penderie. Il avait découvert le cintre. Et il en était tout fier. Tu confirmes, Raphaël ?
Mon Dieu, mais ça me rappelle trop le souvenir.
Mais c'est alors, vrai, je me suis rendu compte. Il va donc pouvoir vous tester ce que vous voulez, hein, remplir vos pages de choses les plus insolites. Ce soir, en tout cas, vous allez tester son interview. Bonne émission à tous.
Merci, Bruno. Alors, de Bruno à Caro, il y a, comment dire, un fossé au niveau look. Hein. Ça fait déjà presque un an que Caro nous a rejoints et Bruno n'a toujours pas craqué pour une petite veste velours ou un combi short salopette. Ah, non, on ne désespère pas. Il reste une émission avant les best-of de l'été. Hein. En attendant, on retrouve Caro pour sa chronique mode et stylisme.
Tu.
Un jingle qui reste dans la tête, il est génial.
Ah là là, c'est infernal.
Ça te va trop bien.
Et ouais, c'est vrai, c'est festif. Alors, bah, bonsoir tout le monde.
Alors, salut.
Ce soir, on va parler du top modèle le plus en vogue en ce moment. Vous me dites, c'est Gigi Hadid, mais oui, bien sûr, la petite Gigi,
comme on l'appelle ça.
Alors, de son vrai nom, elle s'appelle Jelena Noura Hadid. Et c'est juste le mannequin le plus en vue en ce moment. On la voit partout. C'est la fille à suivre, c'est la fille à copier, c'est la fille dont on veut absolument la vie, le mec, tout quoi. Alors, elle a tout juste 25 ans et elle a déjà fait les plus grosses couvertures de la presse mode. Elle a fait les défilés les plus prestigieux et les défilés les plus internationaux aussi. Elle est absolument partout, sur tous les podiums de Fashion Week. Alors, il faut dire qu'elle a commencé très jeune. Elle a commencé à 2 ans. Elle posait déjà pour Guess. En 2016, elle a été élue le mannequin de l'année au British Awards. Donc, à peine 25 ans, elle a déjà une carrière splendide.
Il y a des cérémonies pour élire les meilleurs mannequins. C'est ce que tu es en train de dire, en fait.
Exactement. Il y a des cérémonies...
Ah ouais.
De toute façon, pour la, tout ce qui est musique, etc. Mais oui, il y a des mannequins de l'année aussi.
En mode, d'accord, je ne savais pas.
Ouais, donc c'est elle qu'on doit suivre depuis à peu près 2015. Donc il faut savoir que c'est un peu une enfant de la balle. Hein. Sa notoriété, elle n'arrive pas complètement du hasard. Sa mère Yolanda, qu'on a vue dans les Real Housewives de Beverly Hills, je ne sais pas si vous regardez, mais alors moi j'adore. C'est des crépages de chignon sur fond de fortune et de maisons à des milliards de dollars. Bon, bref, donc c'était déjà un mannequin d'origine hollandaise qui a eu une très bonne carrière. Son père, Hadidi, c'est Mohamed Hadid. Il est promoteur immobilier hyper fortuné, d'origine palestinienne. Donc c'est une famille ultra, ultra riche, élitiste, de Beverly Hills, qui a pour voisins les Kardashians, les Hilton. Donc bon, un joli petit monde, quoi. Mmh. Alors, elle a une sœur de 1 an, sa cadette, qui s'appelle Isabella. Mais dans le milieu de la mode, tout le monde l'appelle Bella Hadid. Et elle a un jeune frère, Anwar. Et ils sont tous mannequins, évidemment, comme maman.
Oh la famille de ouf.
Et alors, les sœurs Hadid, elles sont toutes les deux sur les podiums en binôme. Donc, elles sont ultra, ultra en vogue. Vraiment, c'est l'une avec l'autre. Elles sont très différentes. Hein. L'une est blonde aux yeux bleus et l'autre est brune au teint mat. Donc, il y a cette espèce de raccord qu'on aime bien. Alors, cependant, on préfère quand même Gigi parce qu'elle est naturelle. Sa sœur, elle a fait la une des page people à cause de ses nombreuses opérations de chirurgie juste sur son visage. D'ailleurs, son avant-après est ultra recherché sur Google. Tapez, vous verrez. Elle a entre 20 et 25 interventions et opérations de chirurgie, le nez, les pommettes, rehaussement des sourcils, etc., etc. Voilà.
Elle est connue. Ça a 25 ans.
Ah non, elle a 23.
Et elle a déjà fait toutes ses opérations.
Exactement. Alors, elle a été élue quand même le visage le plus parfait au monde, mais bon, c'est un petit peu une polémique, hein, parce qu'après 25 opérations, on peut se dire que tout le monde peut être à peu près joli, quoi.
Ah, puis après, ça va éclater, ça va être moche, quoi.
Ah bah, on verra dans 10 ans, hein. Mais c'est vrai qu'elle est
très
jolie. C'est ça. Alors,
ça
elle a fait parler d'elle aussi, parce qu'elle est sortie avec The Weeknd. Voilà, ce sont des filles qui ont un petit peu, qui sont sorties avec les musiciens, les chanteurs hyper à la mode, les Jonas Brothers, The Weeknd, etc. Donc voilà pour les origines parfaites de Gigi. Alors ça fait un peu too much tout ça, un peu télé-réalité, mais au final on aime bien suivre ça, quoi. Alors, pourquoi on aime la suivre aussi ? Eh bien déjà parce qu'elle a une carrière dans la mode qui est ultra impressionnante pour son âge. Elle a été égérie Tommy Hilfiger, égérie Marc Jacobs, Victoria's Secret en 2015, elle a des mensurations de rêve, 86, 64, 89, et elle pèse 55 kilos pour 1m78.
Elle a les mêmes que moi, dis donc, Caro.
C'est beau, la radio.
C'est vrai. Mais 55 kilos pour 1m78, c'est...
Oh mais non, mais c'est rien, c'est horrible ça. Attends, un coup de vent, elle s'envole.
C'est un peu bizarre.
Elle a des jambes interminables, hein.
Ouais,
mais bon, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ça, être top modèle, hein, la dure vie de top modèle. Et son compte Instagram, il est suivi par 54,3 millions d'abonnés.
Ah bah, comme tendance à me plaire. Hein,
bah, c'est ça. Donc, tu vois, Raphaël, voilà, tu fais 55 kilos et c'est bon.
C'est ça. Donc, autant dire que c'est vraiment la hit girl du moment. Donc, elle et ses copines, il faut absolument les suivre. Les suivre pour tout. Alors, ses meilleurs amis, ce sont qui ? C'est Kendall Jenner. Donc, la fille du clan Kardashian, la mannequin du clan Kardashian. Il y a Hailey Baldwin, donc c'est la fille d'Alec et la femme de Justin Bieber.
Ah,
ça, c'est un petit microcosme, voilà. Hein. Il y a Kaya Gerber, la fille de Cindy Crawford. Voilà. Et en fait, à L5, avec Bella et Gigi, elles nous font un petit peu revivre le groupe des top modèles des années 90, voilà.
Ah, les Claudia Schiffer et tout.
Claudia Schiffer, exactement, Carla Bruni, Cindy Crawford. Et en fait, on aime cette petite troupe parce qu'en fait, dans la mode, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de groupe de mannequins à suivre. On avait des petites icônes par-ci par-là, Kate Moss, etc. Mais pas de groupe. Et en fait, on adore suivre ça, toutes leurs petites frasques, leur vie, qui sort avec qui se dispute avec qui. Donc voilà, à L5, elles font toute la presse mode et la presse aussi.
Mais elles s'entendent vraiment bien?
Elles ont l'air de s'entendre plutôt bien. Après, je pense que sur un yacht avec une coupe de champagne, c'est facile de faire un petit sourire.
Ouais, il y a quand même une grosse concurrence parce que du coup, ça doit se shipper un peu le crignon. Le chignon.
Le chignon. Bah oui, il y a de la concurrence déjà entre sœurs. Hein. La carrière, elle commence un petit peu à se distinguer. Il y en a une qui est très critiquée, etc. Donc, qu'est-ce que ça va donner à voir ? Mais c'est vrai qu'elles ne jouent pas tout à fait toutes dans la même catégorie. Et puis, à vrai dire, elles sont toutes tellement au top que, bon, elles sont plus trop à un podium près, voilà. Après, elles sont très intéressées par leur vie, leurs petites histoires à l'extérieur. Hein. Le mannequinat, c'est une passion à part, quoi.
Ouais, super.
Donc, voilà. Alors, on les suit pourquoi, ces filles-là aussi ? On les suit pour leur look. Et la petite Gigi, qu'est-ce qu'elle a remis à la mode les années 90 ? Et ça, on adore. Donc, on se
tout
remet un
fluo,
petit peu.
Alors.
C'est fluo. Exactement, c'est le bob Tommy Hilfiger sur la tête, la petite brassière ou le crop top, un baggy, un jean large, des baskets, parce qu'elles sont quand même très jeunes, donc elles ont un style plutôt décontracté, plutôt sportswear, du jean, du jogging, bon, tout en restant hyper chic et hyper griffé. Hein. Donc on aime suivre parce que leur look est ultra pointu. Il suffit de les suivre sur Instagram, de regarder leur look sur Pinterest. C'est vraiment, tout est très calculé et tout est vraiment parfait, quoi.
Mais alors, du coup, Caro, tu veux dire que, en fait, je suis très mode ? Parce que moi, je suis resté dans les années 90 au niveau mode. J'ai pas évolué, donc je suis dans la mode.
Oui, mais t'es pas vraiment Gigi.
À deux, trois trucs près, quoi. Bon,
ouais, je fais pas 55 kilos, c'est ça ?
Non.
C'est quoi
non,
cette grossophobie, hein ?
En fait, t'es un peu un Jean-Michel à peu près, quoi.
Jean-Michel à peu près Gigi.
Mais cet été, on ira faire du shopping pour reprendre septembre sur les chapeaux de roue, Bruno, tu verras.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on aime chez Gigi ? Eh ben, on aime son mec. Hein. Qui c'est son mec ? C'est Zayn Malik, le mec à suivre du moment, ancien membre des One Direction. Il a 27 ans, il a réussi sa carrière solo, il est beau, il est tatoué. Ils sont ensemble depuis 2015, mais ils se sont beaucoup séparés. Et malgré ça, ils restent tous les deux le couple goal des 15-25 ans. Voilà, ils veulent absolument lui ressembler, leur ressembler. Ils sont parfaits. La petite blonde, le grand brun tatoué, vous voyez, il l'a mis dans son clip d'ailleurs, dans son dernier clip Pillow Talk. Donc on les voit tous les deux s'enlacer des embrassades qui d'une longueur, voilà. Et c'est très mignon, c'est très touchant, mais c'est vrai qu'on a un peu envie de leur ressembler, quoi. On les envie quelque part.
Ouais. Alors. Tu les envies.
Un peu. Pour Zaline seulement. Et alors, la petite Gigi, enfin, pourquoi on parle beaucoup d'elle en ce moment ? C'est parce qu'elle était en confinement dans le ranch de Pennsylvanie de sa maman. Hein. Elle faisait du cheval avec sa sœur, avec son mec. Tout. Parce que dans le fond, c'est une petite fille toute nature, tu vois. Elle aime le cheval et la nature et la campagne. Donc, elle faisait du cheval, elle y a fêté ses 25 ans. Et enfin, elle a annoncé sa grossesse avec la pop star.
Ah ouais.
Voilà.
Alors, un scoop de ouf.
Scoop de ouf, et en plus c'est un scoop, il y a eu quelques rumeurs avec sa mère Yolanda sur les réseaux sociaux qui a balancé 2-3 petits trucs, mais en fait elle l'a confirmé à TMZ, donc c'est l'une des plus grosses chaînes, avec l'un des animateurs phares de cette chaîne, et en fait il a eu l'exclusivité totale, et voilà, elle pleure beaucoup, elle mange beaucoup, et ça va être un enfant de star, voilà, c'est vraiment la cerise sur le gâteau dans ce monde de perfection. Donc voilà, la petite Gigi, ça fait 5 ans qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Mais à mon avis, on va en entendre parler encore ces 15, 20, 30 prochaines années. C'est la nouvelle icône mode à ne pas rater.
Moi, à part Gigi l'Amoroso, j'en avais pas entendu parler, perso. Hein.
Moi, j'avais entendu parler de Gigi, la petite fille avec sa petite baguette magique qui changeait tout le temps de tenue quand on était gosse. Ça fait penser à elle. Bah, merci, Caro, en tout cas, pour toutes ces infos. Parlons maintenant du petit futé avec notre invité Sébastien.
C'est l'heure de l'invité.
Alors aujourd'hui, nous recevons Sébastien Michaud, rédacteur depuis 5 ans au Petit Futé Angers, hein, et journaliste professionnel. Une activité très intrigante et qui demande d'être à l'affût de toutes les nouveautés et bons plans de notre ville. Alors avant d'en savoir plus sur votre rôle, Sébastien, et comprendre comment tout ça fonctionne, comment êtes-vous devenu rédacteur pour ce guide ? Racontez-nous votre histoire.
Ben en fait, c'est très simple. De par mon activité de journaliste professionnel, j'étais en contact régulièrement tous les ans depuis de très nombreuses années avec le responsable du guide sur Angers, voilà, le responsable éditorial. Je faisais régulièrement des interviews, des reportages pour illustrer la sortie du prochain Petit Futé. Voilà, des repas presse tous les ans à la même période. On a vraiment sympathisé, on a un peu les mêmes goûts. Voilà, le goût de la bonne chair, de la bonne table. Et voilà, et un jour, il m'a dit, bah, écoute, il y a une place qui se libère. Est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'équipe, tout simplement, voilà.
D'accord. Et du coup, au sein de cette équipe, vous êtes quatre. Alors, quels sont les rôles des différentes personnes ?
Oui, alors on a donc on a eu un responsable éditorial, hein, l'éditeur du guide sur Angers. Voilà, petit coucou à Christian Gill qui nous écoute peut-être, qui a quitté donc l'équipe du Petit Futé l'année dernière, qui est parti en retraite, qui était là depuis le début, hein, et qui a sorti une trentaine de guides du Petit Futé Angers, oui, et qui est remplacé aujourd'hui par une nouvelle responsable éditoriale pour Angers. Voilà, et on est trois auteurs également.
Du coup, la responsable d'édition, elle donne des directives, des suggestions, voilà, d'adresse, c'est ça son rôle à elle, hein.
C'est ça, en fait, elle gère aussi la partie publicitaire, c'est-à-dire qu'on travaille aussi avec pas mal de commerces qui nous achètent de l'espace publicitaire, des photos, des choses comme ça, des gens qu'on met dans le guide, bien évidemment, mais parce qu'on les aime, hein, c'est pas, voilà, et puis, voilà, qui donne un peu des directives en disant quel type de resto, de bar, de commerce on va mettre cette année, qui on enlève, qui on remet, mais ça, c'est un dialogue, voilà, au sein de l'équipe également, quoi. On a aussi notre mot à dire.
Alors, j'ai une question de Sonia, 42 ans, des Ponts-de-Cé, qui se dit critique gastronomique, qui souhaiterait savoir comment elle pourrait intégrer cette équipe. Bon, en fait, plus sérieusement, comment on peut devenir auteur pour le Petit Futé ? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ?
Oui, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est une question d'opportunité, c'est-à-dire que voilà, moi ça fait 5 ans que je fais ça, c'est quelque chose qui me plaît. Le jour où il y a un auteur qui part, évidemment il y a une place qui se libère. Après voilà, la rédaction, la direction à Paris passe des petites annonces, mais voilà, c'est un petit peu par le bouche à oreille, par petites annonces. En fait, il y a pas de règles, hein. Il faut tout simplement avoir une plume correcte, aimer écrire, être curieux, voilà, aimer aussi évidemment les bons restaurants, aimer sortir, et puis surtout avoir un minimum de connaissances, voire même un maximum de connaissances sur la ville dans laquelle on vit.
Est-ce que vous avez des fois, vous missionnez des clients secrets justement pour aller découvrir des nouveaux lieux, que ce soit des bars, des restaurants, etc. ou pas? Ou
c'est vraiment... disons que oui, on se fie aussi à notre entourage, hein, avec les on dit, les on ne dit pas, les oui, on a des antennes comme on dit. On a des antennes, mais ce sont pas des gens qui travaillent officiellement pour le Tifuté, mais c'est des gens qui vont nous rapporter éventuellement des infos que nous ensuite on va aller vérifier sur place.
Okay. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Tifuté Angevin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on trouve dans ce guide?
Bon, en fait, c'est tout simplement depuis 30 ans, en tout cas pour l'édition d'Angers, et pour les autres éditions d'ailleurs qui sont plus anciennes pour certaines villes, c'est un guide de bonnes adresses. Voilà, de bonnes adresses. À une époque, c'était un guide qui était très copieux. On l'a réduit de 2/3 depuis l'année dernière pour y inclure une partie magazine avec des illustrations, des photos, des interviews, des focus sur des artistes, sur des artisans, sur des restaurants, des choses comme ça. Donc le format du guide a un petit peu évolué depuis l'année dernière, mais voilà, c'est un guide de bonnes adresses. Ça ne veut pas dire qu'on retrouve toutes les bonnes adresses, parce qu'on est humain, l'erreur est humaine, et il nous arrive tous les ans de passer à travers certaines infos. Mais en tout cas, on essaie de faire du mieux possible pour que justement les Angevins, tous les ans, aient un condensé des adresses les plus intéressantes. Mais on parle évidemment, quand on parle du Petit Futé, on parle de restaurants, mais c'est aussi les bars, ce sont les lieux culturels, ce sont les boutiques de prêt-à-porter, ce sont les commerces, les artisans de bouche, hein, les pâtissiers, les bouchers, les charcutiers, c'est énormément de choses.
Et il y a même une rubrique coquin, hein, sur le site internet.
Il n'y a plus.
Il n'y a plus. Mais effectivement, ce guide, en fait, il est hyper intéressant. Puis, du coup, avec le magazine, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, de moderne aussi. Il y a j'ai noté une interview d'une blogueuse, d'une décoratrice d'intérieur, d'un artiste musicien. Oui. Je vois que vous avez un top 10 des coups de cœur, alors avec notamment le restaurant chez Loïc, hein, on connaît, oui. Hein, dans une seconde en Saint-Pierre, le Dublin's, le Bistrot des Ducs. Voilà, des exemples de chroniques, hein, vous l'avez très bien cité, les zooms sur la nouvelle directrice du Shabada, par exemple, l'homme fort du Festival d'Anjou. Donc c'est très éclectique, en fait. Ça.
Oui, ça parle aussi de l'actualité sur l'année de la ville, ouais. Ah, ouais.
Et alors, racontez-nous comment ça se passe une enquête, Sébastien.
Ah bah, une enquête, vous avez vu le film de Louis Funès, Les loups la cuisse, non? Non, ben voilà, tout simplement. C'est vrai que pour les restaurants, quand même, les restaurants, on garde l'anonymat, évidemment. Voilà, on se pointe tout simplement, on réserve. Et puis on essaie
d'être accompagné. Vous êtes
Si je suis accompagné, la personne qui est avec moi paiera sa note. Hein. C'est-à-dire que voilà, moi je suis effrayé, moi, évidemment, mais c'est pas open bar pour tout le monde, hein, ça serait formidable. J'aurais beaucoup plus d'amis sinon.
Et puis alors,
voilà, après on a une enveloppe pour tel ou tel type de restaurant. À nous de gérer au mieux cette enveloppe sur l'année. Voilà, on a un budget total et à nous de gérer ce budget. Bon, voilà, on essaie de
Vous avez des critères, j'imagine,
ses propres goûts, mais voilà, il y a pas de règles, en fait. C'est selon l'envie, selon la carte du jour, selon, on n'est pas là à tester 10 000 places, que je veux dire, quoi. Voilà.
Mais du coup, quand on regarde le guide, on a l'impression que, enfin, c'est que des bonnes, enfin, il n'y a pas de notes, mais quand ils sont dedans, c'est que forcément ils sont bons. S'ils y sont pas.
Voilà. C'est-à-dire que on n'est pas là pour jeter des pierres à un restaurateur. Si un restaurateur ne mérite pas vraiment d'être dans le guide, bah, il ne sera pas dedans. Mais voilà. D'accord. À une époque, on avait une rubrique les futés et les pas futés de l'année. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, un établissement qui pouvait être connu par pignon sur rue et qui tout d'un coup déclinait en termes de qualité, on lui lançait une sorte de carton jaune, quoi, là, dans la rubrique pas futé. Maintenant, aujourd'hui, on est là pour dire dire voilà, si le restaurant, si cet établissement est dans notre guide, c'est qu'il vaut le coup. Après, il nous arrive aussi de mettre des petits bémols dans les articles, hein, en disant voilà, ça aurait peut-être mérité plus de ceci, plus de cela. Mais bon, les articles sont quand même, faut être honnête, relativement courts, donc on peut pas non plus trop s'étaler, quoi.
Et du coup, vous jugez un peu la qualité du cadre, de l'accueil, c'est ce que vous m'expliquiez, ouais. Le rapport qualité-prix, l'originalité ouais. de la cuisine. Et alors, à la fin, en fait, vous vous présentez au restaurateur ?
Non.
Vous restez vraiment anonyme ?
Non, on se présente pas, on reste anonyme, pour peu qu'on revienne l'année d'après, qu'on soit missionné pour le même restaurant. Bon, autant quand même, voilà, quoi, c'est autant que l'enquête soit pas biaisée, quoi.
Ah, et donc en fait, bon. Il ne saura jamais le restaurateur que c'est vous, en fait.
Bah non.
Et je peux me permettre de poser une question, juste est-ce que
d'accord. Karine, on t'écoute.
Oui, merci. Est-ce que je sais pas si vous m'entendez bien.
Si, vas-y.
Okay.
Est-ce que des fois vous faites des critiques chez des cavistes ou c'est uniquement chez des restaurateurs ?
Non, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est le petit futé Angers, c'est plein de bonnes adresses dans tous les domaines. Donc on a aussi des cavistes, on a tout ça. Ouais.
C'est principalement la restauration.
Ah non, c'est pas que la restauration.
Ouais,
c'est aussi le prêt-à-porter, c'est aussi la culture, ça peut les clubs de sport, les lieux culturels, c'est tout. Hein, c'est vraiment.
La déco, les hôtels aussi, oui, j'ai noté, les agences de voyage, pourquoi pas.
Ouais.
Et alors, bon, maintenant on se connaît un petit peu, Sébastien. Alors, si par exemple on veut faire paraître notre émission de radio Tendance à me plaire dans le guide, comment on procède?
Eh bien, vous avez mon téléphone maintenant. Hein. C'est fait. Voilà, c'est ça.
Mais alors, plus sérieusement, est-ce que vous vous faites souvent démarcher pour que l'établissement paraisse dans le guide?
Non, c'est rare. En général, alors il y a des établissements, mais là du coup c'est pas vraiment mon rôle. Hein. Il y a des établissements D'accord. qui démarchent la responsable d'édition pour avoir un encart publicitaire, pour avoir des photos dans le guide. Dans ces cas-là, si on juge que l'établissement est digne de figurer dans le guide au vu de ce que réclame la charte du petit futé, c'est-à-dire un minimum de qualité, effectivement, il va être dedans. Mais après, non, c'est rare. Par contre, il y a des gens qui, oui, on peut être sollicité en disant, tiens, il existe ceci, il existe cela, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir, vous devriez aller jeter un œil. Et là, effectivement, oui, mais là, c'est ce que j'ai dit. On a des antennes, on se promène pas mal en ville, hein, on regarde à droite, à gauche, voilà.
En tout cas, on sent que vous êtes passionné. Alors, quels sont vos domaines de prédilection à vous ?
Oh bah c'est la bouffe, hein, clairement. C'est vrai que moi je suis assez passionné de cuisine. Et puis bon, voilà, de par mon métier, c'est vrai que je commence à connaître bien la ville depuis une vingtaine d'années. Donc puis je suis curieux de savoir ce qui s'ouvre tous les ans, les nouveautés. Et même pour une ville de la taille d'Angers, qui est quand même pas une très très grande ville, on découvre des choses formidables tous les ans.
Ben oui, il se passe toujours quelque chose. Hein. On a de quoi nous rire, c'est notre émission pendant, s'il vous plaît. Et du coup, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, cette passion ?
Qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien ? Bah, ça m'apporte tout simplement le plaisir de... Bah, le plaisir de la découverte, voilà, et puis ça s'appelle aussi joindre l'utile à l'agréable, hein, parce que souvent j'ai des amis qui rigolent, ils me disent mais voilà, tu te fais des bons restos et en plus t'es payé pour ça, c'est formidable. On va pas bouder de notre plaisir quand même. Voilà, c'est puis les contacts aussi, puisque bon, les restaurants on est quand même anonyme, mais pour les autres commerces, voilà, pour les autres adresses, souvent on se présente pour mener des enquêtes. Donc on découvre des gens formidables, voilà, il y a un dialogue qui s'installe et ça c'est très intéressant aussi.
Alors habituellement un guide sort tous les ans et bientôt c'est la 31e édition,
oui.
Mais avec la crise que nous traversons, est-ce que ça a changé des choses, on peut oui. l'imaginer?
Bah oui,
vous en dire un peu plus.
Bah oui, j'ai été à la diète pendant deux mois et demi, hein, évidemment. oui, c'est plus compliqué dans la mesure où effectivement tous les ans on est censé rendre un petit peu les copies, comme on dit, à la fin du mois de juillet. Bon là, évidemment, on a pris beaucoup de retard sur les tests de certains établissements. Donc les tests vont se poursuivre cet été et à la rentrée. Et le guide qui paraît tous les ans à la fin du mois de septembre paraîtra exceptionnellement cette fois-ci. Début 2021, donc en février si tout va bien. Voilà.
D'accord. Bon bah très bien, Sébastien, on a hâte de découvrir vos nouveaux lieux coup de cœur, mais il faut attendre un peu. Hein,
oui, c'est encore un peu tôt pour donner des noms, effectivement. Ouais.
Et du coup, on retrouvera le petit futé en kiosque, librairie, bureau de tabac, la FNAC, au prix de 6 euros, il me semble.
C'est 6,90 ou 5,90, je ne sais même plus.
C'est 5,95.
Eh ben voilà, voilà.
Allez, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Allez, voilà. Merci en tout cas, Sébastien.
Merci.
Voilà, et vous aimez jouer, Sébastien?
Oui, à quoi?
Alors restez bien à l'écoute puisque voici le Soso Show.
Le Soso Show.
Chaud, cacao, tu chantes quand tu chantes. La paix soit sur le.
Tout, vous saurez.
Chaud, chocolat. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, voici un nouveau Soso Show hein, qui respecte, bien sûr, les distances sociales. Alors, le concept du jeu, hein, c'est un rébus musical. Vous allez devoir retrouver à l'aide d'indices musicaux des actualités donc insolites qui ont pu retenir mon attention ces dernières semaines. Alors, eh bien, écoutez, ce soir pour vous, trois Soso Show. C'est parti.
Le Soso Show.
Pigeon voleur.
Je joue à pigeon voleur. Pour être un agent secret, un conseil, soyez discret. Pour être un agent secret, il vaut mieux rester muet.
Le Soso Show.
Alors.
Alors, il y a du pigeon.
Ah, pas facile, hein. Non, c'est pas facile, effectivement.
L'histoire des pigeons.
Il y a du pigeon, ouais.
Des pigeons détectives?
Non.
Un pigeon agent secret.
Un inspecteur, un pigeon inspecteur.
C'est ça.
Un voyageur.
007.
Un pigeon espion.
Ah.
Est-ce que ça vous parle, ça?
Bah non.
Non, pas
bon,
du tout.
Bah non, j'y vais.
Non, mais il faut se méfier des pigeons, c'est vrai.
Ben c'est ça, il faut se méfier. Donc, semble-t-il, en Inde, eh bien, un pigeon a été soupçonné d'être espion du Pakistan et il a été emprisonné.
Ah, ils l'ont même pas buté, ils l'ont emprisonné. Bien.
Non, voilà, je vous raconte.
Ils veulent le faire parler.
C'est ça, nous avons les moyens de vous faire parler. Alors, les autorités indiennes donc, ont annoncé avoir libéré, il y a quelques jours, un pigeon qui avait été soupçonné d'être un espion à la solde du Pakistan. Donc, plus forte 007. C'est 008. Alors en fait, l'oiseau appartenait à un pêcheur pakistanais prénommé, c'est important, Abibula, qui habite près de la frontière entre les deux pays. Et en fait, ce monsieur est adepte des courses de pigeons. Donc l'animal, lui, a été intercepté après quelques jours auparavant, après avoir traversé la région du Cachemire. Et du coup, quand ils l'ont intercepté, ce pigeon, ils ont trouvé des traces suspecte sur ses pattes, des espèces de codes avec des chiffres. Et donc, ils se sont dit, ça c'est sûr. Du coup, c'est un échange entre groupes de militants. Ils se donnent des informations. Et bien, finalement, en allant un petit peu plus loin dans leur enquête, ils se sont rendus compte que ces inscriptions, et bien, c'était tout simplement le numéro de téléphone de son propriétaire au cas où l'oiseau se perde.
Oh, le pauvre pigeon.
Hein, puisqu'on sait bien que quand on fait des courses de pigeons, bah, parfois le pigeon s'envole et ne revient pas jusqu'à destination. Donc, du coup, ils ont finalement libéré l'oiseau. On ne sait pas s'il a été rendu à son propriétaire, mais bon, c'était un petit peu loufoque, je trouvais, cette histoire. Mmh. Alors, on est parti pour le Soso Show numéro 2.
Le Soso Show.
La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Tu regrettes tes écarts. Mais maintenant, c'est trop tard.
Ces odeurs me font tant d'effet. Et je pleure quand ils commencent à frémir. J'aime l'oignon. J'aime l'oignon. Cuit ou cru dans ma bouche.
Le Soso Show.
Ça va beaucoup mieux, Sonia.
J'adore.
Bon, alors on parle d'oignon.
Vous avez tous les éléments. Maintenant, il faut en mettre tout dans l'ordre.
C'est japonais, un peu devant?
Ouais, c'est, enfin, on va dire, c'est plutôt asiatique, consonance asiatique.
Alors, des oignons
ça,
asiatiques.
C'est plutôt, ça se parle en Chine.
Ça parle de bouffe. Sébastien, peut-être. Un indice.
Alors, le premier indice avec l'io, ça parle de, surtout de.
La banane, non, c'est pas la banane.
Non, c'était pas la banane. Ça parlait de vengeance.
Ah, vengeance,
c'est un plat qui se mange froid.
Ah oui.
Donc, une vengeance, et puis après on entend parler de quelque chose important dans l'histoire.
Des oignons ?
Les oignons. Et les oignons, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils font pleurer.
Ils font pleurer. Bon. Ah. Alors, vous n'avez pas l'actu, mais je vais tout de suite...
Oui, vaut mieux, parce qu'on ne va pas y arriver.
Pallier à ça. Donc, en Chine, elle fait, une jeune femme, donc, fait livrer une tonne d'oignons à son ex. Et pour quelle raison ? Pour le faire pleurer. Oui, messieurs.
Oh non !
Si, une Chinoise est conduite par son amoureux à quelques jours de la Saint-Valentin locale, a décidé donc de se venger en déversant devant son ex une tonne d'oignons. Et pour cela, du coup, elle a acheté en ligne des bulbes, donc avec leur pouvoir irritant, hein, les oignons, donc, avant de les faire livrer donc chez l'ex, puisque celui-ci...
Je croyais qu'il fallait couper les oignons pour pleurer.
Oui, oui, ça, les oignons, normalement, ça ne fait pas pleurer si c'est effectivement pas coupé.
Hein. Bah bon, bah, peut-être qu'une tonne, hein, les uns sur les autres, et qui sont en putréfaction, ça peut effectivement amener peut-être quelques larmes.
Ouais, ça
peut, et donc, cette jeune femme, elle avait ordonné au livreur donc, d'empiler les oignons devant la porte de l'appartement de son ex, et surtout de partir en toute discrétion, sans sonner. Donc, cette jeune femme explique qu'elle a pleuré pendant 3 jours sans discontinuer, et maintenant, elle décidait que c'était à son tour de pleurer et de verser une larme. Après tout, il y avait pas qu'elle. Ça change. Alors, quand même, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, ça n'a pas posé problème qu'à l'ex en question, hein, à ce pauvre amoureux qui l'avait conduit, mais également à tout le quartier, hein, qui a profité de ces odeurs nauséabondes et qui a également pleuré. Hein, il n'y a pas eu que ce jeune homme. Donc, voilà un petit peu. Elle s'est dit choquée, cette jeune femme, d'avoir été larguée comme ça, comme une chaussette. Et elle s'est dit, bah, il n'y avait pas de raison. Elle voulait lui tirer une petite larme aussi à cet homme. Voilà.
Mais il existait aussi la vengeance d'une femme qui avait mis des crevettes dans les tringles à rideaux en fait de son ex.
Non.
Et en fait, ils ont dû faire venir des dératiseurs. Enfin, à un moment donné, ils se demandaient d'où pouvait provenir cette odeur. Et j'ai trouvé ça assez futé finalement.
Comme vous avez vos idées.
Ils ont
vous
eu du mal à trouver.
Méfiez-vous des femmes et conduites, messieurs. Hein, faites ça bien, s'il vous plaît.
Malin.
Allez, on y va pour le troisième Soso Show et peut-être vous allez trouver cette fois-ci.
Je suis comme un roi quand je suis sur ma mobilette. Mobilette, 100% mobilette. Mobilette, 100% mobilette.
L'angoisse, la phobie, la frousse. L'angoisse, la phobie, la frousse.
Je suis livreur de pizza et c'est pas par envie, mais je suis livreur de pizza et c'est pas par envie.
Je suis livreur de pizza.
Il y a beaucoup de bruitage là.
C'est flippant.
Un livreur de pizza qui s'est fait séquestrer ?
Non.
Qui a fait hurler une femme ?
Non, j'aurais pu mettre un cri d'homme d'ailleurs même. Je me suis trompée, c'est pas grave.
Ah, c'est le livreur qui crie ?
Non, c'est celui qui reçoit la livraison qui crie et qui a la frousse.
C'est pas une pizza.
Alors bon, je suis désolée, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment être tombé dessus pour avoir l'information, mais je vous la donne parce que là encore, c'est insolite. Alors, il se trouve qu'un homme tremble dès que maintenant il entend une mobilette. Et savez-vous pourquoi ?
Parce qu'il s'est fait livrer et que ça lui a fait très peur. Mais alors pourquoi ? Je ne sais pas.
Eh bien, depuis 9 ans, cet homme reçoit des pizzas chez lui, mais sans le vouloir, sans en avoir commandé. Eh bien voilà, je vous raconte l'histoire de ce harcèlement à la pizza, et c'est une histoire belge. Depuis 9 ans, ce monsieur s'appelle Jean Van Langdom, il a 65 ans et il reçoit une dizaine de pizzas, alors je ne sais pas si c'est par jour ou par semaine, sans bien sûr les avoir jamais commandées. Donc pour certains, ça peut être le rêve, mais pour lui, c'est devenu un vrai cauchemar. Alors, si les premiers temps, il pensait que c'était une erreur de destinataire, il est désormais convaincu que ces livraisons intempestives sont bien le signe d'un acharnement contre lui. Hein, parce qu'il dit que ça lui arrive en semaine, comme le week-end, à n'importe quelle heure. Parfois, ça peut être à 2h du matin. Le livreur qui sonne à sa porte pour lui dire « Monsieur, voilà votre pizza, vous l'avez commandée. » Donc, au plus fort de l'acharnement, il dit que parfois, par jour, il a pu recevoir 14 livraisons de pizza.
Alors, après les oignons, le pizza ?
Voilà, c'est ça. Alors, pour autant, ça, il dit que lui, bien sûr, il ne paye. Il décide, il renvoie les pizzas en disant « Moi, j'ai rien commandé et je ne vous paierai pas. » Et il y en a au moins pour 450 euros à chaque fois. Enfin, c'est quand même des sommes assez énormes. Alors, ce monsieur s'interroge. Une vengeance, est-ce une vengeance personnelle? Parce qu'il n'arrive pas, il a porté plainte, mais il n'arrive pas à savoir d'où vient ce harcèlement à la pizza. Et semble-t-il, il semble qu'une personne proche de lui, une amie ou un ami, subisse ce même sort. Donc, je ne sais pas qui ils ont contrarié, mais en tout cas, ça dure depuis 9 ans, cette histoire, et ça ne s'arrête pas. Donc, écoutez, voilà, si vous voulez un jour ou être livré gratuitement par des pizzas, n'hésitez pas, hein, contactez.
Mais il doit changer monsieur. Il doit changer de pizza YOLO tout le temps, parce que ça doit se voir. Au bout d'un moment, ils ne veulent plus livrer.
Après, il parle de livreurs style pizza, kebab, pita, enfin, de façon assez générale, mais c'est ensemble-t-il.
Ah oui, de n'importe quoi, c'est pas.
Voilà, c'est ça. À n'importe quelle heure, ni quel moment de la journée. Enfin, voilà. Donc, ça m'a fait rire aussi. Je me suis dit, c'est insolite. Parlons-en, c'est important.
Merci Sonia. Alors, dans la suite de l'émission, on retrouvera Karine pour sa nouvelle rubrique autour des infos Infox. Bruno pour son journal des nouvelles technologies. Mais pour le moment, on retrouve Olivier qui va nous parler des films évoquant la cause afro-américaine.
Olivier. Oui, donc l'actualité des dernières semaines a beaucoup parlé des émeutes aux États-Unis, des émeutes raciales avant tout. Et donc j'ai voulu évoquer l'histoire des Afro-Américains aux États-Unis. Alors petit résumé historique. Donc les États-Unis, c'est surtout à partir du début du XVIIe, ils sont marqués quand même par l'esclavage. Faudra attendre la fin de la guerre de sécession en 1865 pour que les États-Unis abolissent définitivement l'esclavage sur tout le territoire américain et notamment les États sudistes. Donc dans la foulée, les États du Sud mettront en place la fameuse ségrégation raciale par peur uniquement du métissage, donc pas uniquement par racisme. Et donc c'est aussi en 1865, malheureusement, la fondation aussi du Ku Klux Klan. Dans les années 60, donc quasiment 100 ans après, c'est le grand mouvement des droits civiques avec des grandes figures de la cause afro-américaine comme Rosa Parks, Martin Luther King ou Malcolm X. Voilà, il faudra attendre 1965 pour que la ségrégation prenne vraiment fin. Et depuis les années 70, 80, 90, 2000, 2100, donc c'est un peu ces émeutes qui reviennent souvent, ces problèmes vraiment des blancs quoi, qui sont un peu racistes quand même. Hein, il y a un vrai problème raciste aux États-Unis. Alors, quels sont les films qui abordent le plus ces différentes époques et ces différents problèmes? Tout d'abord au niveau de l'esclavage. Alors, il y a trois films qui sortent du lot, faits que par des grands réalisateurs, notamment Amistad de Steven Spielberg, qui racontait l'histoire d'une mutinerie au 19e siècle dans un bateau qui transportait des esclaves de l'Afrique vers les États-Unis. Il y a aussi un western de Tarantino qui s'appelle Django Unchained avec DiCaprio. C'est pas mal, ça. Qui est vraiment très bien, où on voit notamment Tarantino qui persécute ses esclaves. Et puis aussi un film qui avait obtenu un Oscar de meilleur film, un film de Steve McQueen, pas l'acteur mais le réalisateur, qui s'appelle 12 Years a Slave. Donc un noir américain de New York qui a été enlevé par des esclavagistes et qui l'ont vendu à un propriétaire terrien du Sud et qui va vivre 12 ans comme esclave alors que c'était un homme libre à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a comme film aussi qui parle de la ségrégation? Alors il y a à peu près trois films qui m'ont marqué. Un vieux film des années 80, c'est un film d'Alan Parker qui s'appelle Mississippi Burning. Donc là c'était dans les années 60, il y a trois hommes qui sont membres d'un comité de défense des droits civiques qui disparaissent. Il y a deux agents du FBI qui vont mener l'enquête. Et là, on va découvrir un peu les exactions du Ku Klux Klan. C'est un film très, très dur sur le racisme américain. Récemment, on a vu le film Green Book. Là, on est en 1962 et on suit un Tony, qui est un videur italo-américain du Bronx, qui doit conduire et protéger Don Chili, qui est un pianiste noir. Et en fait, il doit l'accompagner. Il doit le conduire à travers une tournée de concerts. Il fait des tournées de piano.
et donc ils vont être confrontés aux humiliations et aux persécutions. Les Green Book, en fait, c'est un petit bouquin voilà, qui était destiné à la communauté noire, qui indiquait les, un peu comme...
Le petit futé, j'en sentais venir celui-là.
Mais c'était un peu ça, bah, malheureusement c'était un peu ça. C'était, en fait, ça indiquait les lieux, les bars, les restos qui acceptaient les Noirs. C'était bon. Heureusement, ça n'existe plus. Ouais. Et puis aussi le film Selma, qui est un film poignant, qui retrace une partie de la vie de Martin Luther King et de ses combats. Alors Selma, c'est une ville en Alabama. Et en fait, il faut savoir que Martin Luther King avait fait des marches pacifiques qui visaient notamment à faire pression sur Lyndon Johnson pour qu'il garantisse l'effectivité du droit de vote pour les citoyens américains. Voilà, et en fait, je finirai par une série, c'est la série la plus regardée sur Netflix aux États-Unis. C'est une mini-série, ça s'appelle « Dans leur regard ». Alors, moi je vous le conseille, j'ai découvert ça pendant le confinement, ça m'a vraiment, voilà, vraiment bouleversé. C'est un film qui revient sur l'affaire des 5 de Central Park qui a eu lieu en 1989. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire des 5? Voilà, un soir il y a une femme bourgeoise américaine, blanche, qui est violée à Central Park. Et la police, donc il y a un contexte particulier, il y a quand même des émeutes raciales à l'époque, et la police arrête 5 jeunes noirs américains, voilà, dans Central Park, et leur fait avouer le meurtre, mais en faisant pression sur eux, quoi. Enfin, c'est pas eux du tout les meurtriers, mais ils les persécutent et les font avouer, voilà, tout ça filmé, tout ça sous la menace, et ils vont avoir une peine de 10-15 ans de prison. Tout ça pour, au bout de 15 ans, être innocenté par l'aveu d'un blanc qui avait, voilà, qui avait violé cette femme, quoi. Donc une vie gâchée pour 5 personnes, une vie, voilà, une parenthèse de 15 ans. Voilà, c'est un film qui a, enfin, alors à l'époque, il y avait notamment Trump, le fameux Trump, notre Trump de maintenant, il y a 30 ans, même 30 ans, qui avait acheté des pleines pages dans tous les journaux de New York pour, voilà, pour promouvoir la peine de mort. Voilà, il voulait la peine de mort pour ces 5 blacks qui, en fait, étaient complètement innocents. Oui. Et la série aborde vraiment cette question de Trump, ça fait vraiment très, très, très peur, quoi. Oui. Et 30 ans après, bah, Trump attise toujours cette haine, ce racisme, quoi.
Voilà. Okay. Eh bien, merci Olivier. Alors, vous le savez, nous sommes de grands joueurs dans cette émission. Alors, après le Soso Show, voici un nouveau jeu autour des infos Infox avec Karine cette fois-ci. Hey boy, what you say boy? You're trying to play coy like a game
boy. Got this boy speaking Spanish, I hit puppy. Bonsoir tout le monde. Donc, comme je vous l'évoquais, on est en pleine saison du potager. C'est une nouvelle tendance, hein, si vous ne l'avez pas remarqué.
C'est des copains qui sont vieux, c'est ça?
Exactement.
Je la fais tout de suite, hein, parce que comme ça...
on ne va pas
non, mais il fallait la faire,
Caro, pour ne pas la citer. Donc, une nouvelle expérience pour certains et un véritable retour aux sources pour d'autres. Et est-ce que vous savez que plus de 60% des Français possèdent un jardin?
Plus de 60%?
Ah, j'aurais pas pensé autant, oui.
Ouais, c'est énorme. C'est bien. Donc, si ce n'est pas votre cas, le potager d'intérieur existe aussi. On est début juin, il fait beau, il fait chaud et c'est la période idéale pour planter ses graines. Attention, je parle bien des fruits et légumes. Quel bonheur de se délecter de son potager autour des plats composés de légumes du soleil. Une véritable expérience sensorielle et nutritionnelle. Donc, c'est pourquoi, à travers des questions sous forme d'infos ou d'infox, je vais vous apporter des astuces et conseils essentiels pour un potager au top. C'est parti. Alors, le potager connecté avec votre frigo, en fonction de ce que vous mangez, vous êtes livré des graines. Grâce en fait à une caméra intégrée dans votre frigo connecté, l'application connaît les fruits et légumes consommés pour prévoir la livraison de graines qui correspond à votre consommation. Exemple, vous mangez des radis, il y a des radis dans le frigo, l'application déclenche la livraison des radis qui seront à planter pour la fois prochaine.
Moi, techniquement, j'y crois pas trop.
C'est faux, ça. Je vois pas trop l'intérêt directement.
Oui, non, c'est faux parce qu'il faudrait qu'ils prévoient pour l'année suivante ce que tu as mangé l'année précédente.
Mm-hmm. Après, toutes les données sont enregistrées.
Bon, moi, je dis non. Moi,
tu la télécharges.
Moi, je dis un fox.
Moi, faux aussi, ouais.
Moi, je dis vrai.
Eh bien, non, c'était faux. Ah, en revanche, il existe le potager connecté d'intérieur. Donc, c'est une application qui vous permet de suivre l'évolution de vos plantes. Vous choisissez le mode d'éclairage et vous êtes averti quand le réservoir est vide. Voilà, on se laisse guider, c'est simple et rapide pour un résultat garanti. Un arrosoir qui diffuse de la chlorophylle.
Oh, de la chlorophylle, mais quel intérêt ?
Bah, pour avoir des fruits et légumes encore plus verts.
Ah, bah, pourquoi pas, ouais. Bah,
la chloroquine, ouais.
Faux, ouais. Non, la chloroquine, la chlorophylle. Alors, il y a moitié faux, moitié vrai, là ?
Bah, oui. Moi, je dis faux.
Ouais,
hein.
À peu près.
La chlorophylle, je vois pas trop l'intérêt pour les plantes. Elles le produisent elles-mêmes, mais c'est...
Eh bien, tu avais entièrement, Bruno, raison. C'est faux.
Ah.
Oui.
Exactement. Est-ce que vous connaissez les légumes qui sont à planter en ce moment ? Si je vous dis tomates, courgettes, aubergines, concombres, carottes, radis.
Oui.
C'est la saison ou pas ?
Oui. Oui.
À planter, oui. Mais pas à manger, oui.
À planter, ouais, tout à fait.
Oui.
On voit que vous y connaissez pas grand-chose en fait. Hein.
Non,
exactement. Ah, oui. Non, c'est bien ça. Et si je vous dis la fève,
il faut attendre la fin des fins de glace pour tout planter.
Alors, il me paraît que c'est idéal en effet, et que quand il fait froid au sein de glace et qu'il pleut, on aura un été beau et chaud. En même temps, c'est pas faux, ils annoncent une canicule. Si on plante des fèves et de la rhubarbe, est-ce qu'on est dans la bonne période ?
Oh non, c'est plus d'hiver, non. Ça.
La rhubarbe, elle est déjà à manger et à utiliser, à récolter maintenant. Donc, du coup, ça devait être à planter bien plus tôt.
Bah ouais.
Vous êtes pas mal, c'est ça.
Bah oui, moi je fais des tartes à la rhubarbe. voilà, elles sont déjà. Enfin, c'est pas tout à fait moi qui les fais.
Ouais,
mais
bien,
en tout cas, je les consomme en ce moment.
Et tu les dégustes.
Il y a des bonnes bases en fait. Hein. Vous feriez des très bons potagers, je pense.
Qu'est-ce que c'est
Si on parle maintenant d'insecticides naturels. La bière contre les limaces.
Oui.
Ah ouais. Bah tiens, c'est Bastien.
T'as jamais vu une limace péter complètement bourrée.
Non, mais par contre, en effet, la limace a un goût immodéré pour la bière. En fait, il suffit d'en déposer une coupelle dans son jardin, d'attendre qu'elle vienne y goûter, et en fait, elle va s'y noyer. J'ai testé, en effet, elle se noie dedans, quoi. C'est impressionnant. Alors, par contre, c'est un inconvénient parce que c'est un peu trop efficace et la bière peut attirer les limaces qui sont situées sur un rayon de 100 mètres.
Oh, ouais.
Et oui. Ouais. Donc, la bière, oui, mais attention, si vous voulez pas 100 mètres à la fin, faut les nourrir, enfin, faut les faire boire après.
On peut avoir un amas de limaces, près des trucs, quoi. C'est pas très glamour.
Ouais, puis si elles gerbent et tout, c'est terrible.
C'est pas glamour, mais c'est écolo. T'as pas besoin de mettre des petites graines.
Exactement, il y a beaucoup d'insecticides naturels.
C'est super pénible.
Très bonne astuce.
Après, Bruno, une limace vomir, honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment très impressionnant, quoi. De toute façon, c'est pour avant. Donc, autre astuce, est-ce que les coquilles d'œufs broyées sont efficaces contre les limaces ?
Oui, parce qu'en fait, elles se coupent en passant dessus.
Oh.
Moi, j'aurais dit non.
Oui, non. Moi, je dis oui.
Mais moi, je pense que c'est plutôt non.
Tu disais quoi, Raph ?
C'est plutôt contre les fourmis, plutôt ?
Eh bien, en fait, c'est tout ce qui grimpe. Donc, les fourmis, ça va aussi avec, comme tu dis, Bruno. Tout ce qui va être, en fait, gastéropode, qui grimpe sur les plantes. Donc, ça fait une sorte de barrière naturelle. Il faut vraiment prendre des coquilles d'œufs et vous les écraser au pied de celle-ci. Après, si vous rajoutez de la marre de café, ça fait fuir aussi les chats. On commence à des fois un petit peu tout dévaster au niveau du potager.
Alors, j'imagine le potager de Karine. Toi, tu as de la bière, tu as des morceaux d'œufs, tu as du marre de café.
Des limaces bourrées, c'est super. La bière, parce que tu sais que je ne bois que du vin rouge. Donc, non, je n'ai pas la bière, malheureusement. Malheureusement. Mais oui, ça peut se... Mais vraiment, on a beaucoup de choix d'insecticides naturels qui permettent d'éviter des produits, des fois, qui sont pas très intéressants et un peu trop chimiques. Est-ce que c'est vrai ou faux que l'ortie est un fertilisant ?
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui. Moi, j'aurais dit plutôt qu'on utilise l'ortie pour les mauvaises herbes. Donc, plutôt...
Vous avez raison, en fait, c'est un fertilisant et un répulsif redoutable contre les bêtes nocives qui peuvent attaquer le potager. Par contre, ça a une odeur horrible.
Mais c'est plein d'azote. C'est plein d'azote, en fait. Ça pousse avec le pipi, alors c'est plein d'azote. Et donc, du coup, l'azote, c'est très, très bon en engrais.
Ça pousse avec le pipi.
Oui, c'est-à-dire que dans les champs où tu vois, il y a plein de c'est là que les vaches, elles font pipi. Et donc, ça adore ça, ces plantes-là, parce qu'elles ont plein d'azote dedans.
Alors, sinon, il y en a aussi très souvent dans les jardins. C'est la période, on a juste à les prendre avec des gants aussi de jardinier. Hein. On frotte les feuilles entre elles pour enlever les épines. Et on peut le manger comme un légume, le cuisiner comme on veut. Et c'est vraiment une ressource intéressante en termes de fer et de protéines. Petite parenthèse. Mais en effet, comme répulsif et un fertilisant, c'est très, très efficace. Et je ne pense pas qu'il y ait trop de pipi dans le jardin.
Ça dépend, il y en a qui vont.
Ouais, ou alors si tu as des chats autour qui viennent, mais voilà.
C'est ça.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des potagers qui sont en libre service?
Oui.
Ah oui.
Ah oui, si, si, ça fait longtemps que ça existe.
Il y a eu, mais ça n'a pas trop marché, parce qu'on en avait parlé à l'émission. Ils étaient en libre service devant la mairie.
Ah si, mais ça. ça marche de temps en temps, si, si.
Ah ouais,
exactement. Alors, c'est pas, ça fait quelques années déjà. Il y en a, en effet, près de la mairie, hein, il y en a un. En effet, des potagers en ville cultivés par des bénévoles et qui sont en libre service. Donc, des potagers, en fait, urbains, qui sont dans les espaces publics. Et ça avait été mis en place principalement sur la ville de Périgueux. Quand c'était au tout début. Est-ce que ça, les sacs à potager pour les habitations qui ne possèdent pas de balcon, est-ce que c'est vrai?
Les quoi?
Les sacs à potager. Pour ceux qui n'ont pas de jardin et de balcon, est-ce que c'est vrai?
Voilà.
Ouais, j'ai du mal à m'imaginer ce que c'est.
J'arrive pas à me représenter ce que c'est, un sac à potager.
C'est un sac de terre?
En fait, c'est pour créer une petite jardinière, hein, d'un potager. Donc, vous imaginez acheter un gros sac. Vous étendez de la terre à l'intérieur, plusieurs dizaines de litres, sur toute sa longueur, sur le sol, hein, à l'entrée de chez vous, par exemple, et vous répartissez donc les légumes à planter. Voilà le principe. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas?
Non, moi, je dis
non. Oui,
non, je pousse ça pas terrible, mais bon.
Donc, il y a majoritairement non. Raphaël qui dit oui. Il y a Raphaël qui avait raison. Et oui, ça se trouve depuis plusieurs années, notamment chez Gamme Vert. Et oui.
Ah ouais.
Ouais, un énorme gros sac en fait, au moins 40 litres de terreau dedans, et puis du coup on plante ses fruits et légumes.
Je mets ça sur le palier.
Tu mets ça dans un bac sur ton balcon.
Mais quand t'as pas de balcon et de terrasse, rien du tout.
Mais alors tu mets
super,
ça
à la maison,
dans ta maison carrément.
Ouais, carrément, directement.
Ah, c'est ça, le
potager d'intérieur. Les sacs à potager d'intérieur.
D'accord.
Donc voilà. Bah, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. En tout cas, vous avez apporter quelques informations utiles.
Merci Karine. On retrouve notre cher Bruno pour un journal des nouvelles technologies et autres news geek et un nouveau jingle.
Tendance à me plaire.
Voilà, c'est tout à fait à propos. Ça fait très nouvelle technologie, très moderne.
Non, mais tu dansais, je te voyais danser.
Ouais, ok. Bon, allez, pour la fin de l'émission, je vais vous apporter un petit peu de fraîcheur. En nouvelle technologie, je vous propose un détecteur qui peut vous reconnaître grâce à votre empreinte anale.
Oh.
Eh oui. Alors non, ça ne sert pas à débloquer votre smartphone en vous asseyant dessus. Non. Ça se passe évidemment aux toilettes. Alors en fait, la cuvette va analyser vos selles et votre urine pour détecter d'éventuelles infections ou risques de cancer colorectal. Le problème, c'est que vous êtes plusieurs à utiliser les mêmes toilettes. Eh bien, on a donc inventé un système qui va scanner votre anus, dont les plis sont uniques d'un individu à un autre. Donc ça a dû être ça, très sympa l'étude, hein. Ils ont dû en voir des culs. Alors pour l'instant, c'est uniquement pour les hommes, mais les chercheurs travaillent aussi sur une version foufoune pour aussi détecter les problèmes féminins. Voilà, tout cela c'est bien sûr connecté. Donc vous allez donc avoir la photo de votre derrière associée à vos coordonnées sur Internet, hein. Ça donne envie. Certains regrettent déjà le bon vieux toucher rectal.
Et sinon, Bruno, ça existe aussi, hein, les chiens qui reniflent pour détecter les cancers des seins chez les femmes.
Ah oui, bien sûr, oui, tous les autres cancers également. Et même le Covid, ils ont trouvé les chiens qui pouvaient renifler et qui voyaient effectivement ce problème.
Je n'ai pas entendu parler de ça.
Apparemment, les
chiens pouvaient renifler le Covid.
Voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse toucher plus fond. Donc voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui.
Eh bien, merci Bruno. Et merci à tous. Merci à Sébastien et merci à vous tous, chers chroniqueurs, pour cette émission que vous pouvez retrouver à tout moment en podcast via le site de Radio G ou des plateformes de streaming musical. Gardez le lien avec nous via les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours avec la toute dernière émission de l'année. On se quitte avec un titre intemporel pour danser Go Home de Bonnie M. Allez, on veut tous vous voir danser. Bonne soirée les amis, à bientôt.
Bonne soirée.
Radio G 101.5 FM.